service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or de la remontée mécanique.
Parce que le SAV, c'est aussi de la culture qui ne sert à rien. Et, vous savez, on a déjà étalé plein de la culture qui ne sert à rien. Après vous avoir fait découvrir toute la complexité des matelas l'an dernier, tu t'en souviens encore? Mais grâce à moi, des tas de gens dorment mieux cette année.
Oui.
Eh bien, aujourd'hui, je vous propose la grande histoire des remontées mécaniques. Et donc, remontons donc, jeu de mots, dans le passé.
Non.
Oui.
T'as trouvé un bouquin sur les remontées mécaniques. J'ai dit, mais faut que t'arrêtes d'aller à la FNAC.
Non, ce n'est pas un bouquin.
Oh, c'est pire, il a fait des recherches archéologiques.
Non. Des gravures japonaises attestent de l'existence de téléportés pour personnes vers 1200. Tu te rends compte, 1200 au Japon. Wow. Et dès 1405, Konrad Kinner fait dans l'ouvrage Obra Belli Fortis la description précise d'un téléporté. Alors, tu te téléportes pas, hein, c'est juste qu'on te transporte en l'air, hein, bien évidemment. Pour transporter hommes, chevaux et armes par-dessus un cours d'eau. Parce que c'était trop compliqué de faire un pont. Ces engins artisanaux utilisent alors des cordages de chanvre, qu'il ne fallait pas fumer, attention, qui limitent la charge de transport ou la pente. Avec le démarrage du transport ferroviaire, lors de la construction des premiers plans inclinés, on voit apparaître les premiers funiculaires en Angleterre et en France. Et les ingénieurs estiment que l'on peut raisonnablement dépasser 5% de pente avec ce système de traction. Ce qui est un peu chiant pour aller à Courchevel.
5%. C'est vrai.
Il faudra attendre l'invention du câble moderne pour que les remontées se risquent à franchir des reliefs plus démonstratifs. Le câble de Wilhelm Albert était constitué d'une âme en chanvre faite de fils torsadés autour de laquelle 6 brins étaient ensuite toronnés autour d'une autre base de cordes de chanvre dans des directions alternées pour plus de stabilité. En gros, c'est un gros câble. Ce principe est mis en place en 1834. Et enfin fiabilisé, le transport par câble se développe avec la révolution industrielle dès la deuxième moitié du 19e siècle. À partir des années 1890, des appareils aériens légers se destinent au transport des passagers. Mais c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale que le développement du téléphérique de transport de voyageurs prend son essor. À partir des années 30, attention, une grande invention qui a rendu service à plein de gens. Et qui ont foutu la merde à plein d'autres. En 1934, c'est l'invention du téléski. C'est donc depuis cette époque que l'on rate cette putain de perche de merde. Tu ne l'as jamais raté, cette putain de perche?
Oui.
Ah? Et oui, bien c'est depuis 1934.
C'est le prix de date de merde.
Alors, je pourrais aussi vous évoquer la merveilleuse histoire de la crémaillère. C'est génial, l'histoire de la crémaillère. Mais... nous avons des choses plus importantes à faire ce soir.
Et oh non, la crémaillère.
Mais écoute, si tu veux plus en savoir sur les remontées mécaniques, sur leur histoire, sur leur technologie, comment on peut faire transporter des gens dans un œuf. Oui, car on transporte des gens dans un œuf. Eh bien, il y a un site internet qui s'appelle www.remontee-mécanique.net. Car oui, tout existe sur Internet.
Ah, faut
il y a des gens qui ont fait un site sur les remontées mécaniques. Alors Dino, s'il te plaît, peux-tu nous donner les nommés pour cette catégorie qui est du SAV d'or de la remontée mécanique?
Les nominés sont Johnson Button au Canada, Mark Weber en Chine, Michael Schumacher en Belgique, Nick Heidfeld en Espagne. Et le vainqueur est Shinji.
C'est dommage, on m'amène pas l'enveloppe en remontée mécanique, ça serait drôle. Une enveloppe.
Mais non, parce que l'enveloppe a s'est pris la barre.
Alors. Le SAV d'or de la remontée mécanique récompensant la plus belle remontée d'un pilote en course est attribué avec 52 votes et 49,52% à Jenson Button au Canada.
Non !
Devant Schumacher en Belgique, 27,62%, 29 votes.
Non !
Mark Webber en Chine, 18,1, 19 votes.
Non, ça en fait, je m'en fous.
Et Nick Heidfeld en Espagne, 5 votes, 4,76%.
Nick Heidfeld, c'est un pilote de Formule 1? Je ne sais pas, je ne le connais pas.
Lui, il est resté en bas de la pente. Quand même, la course de Button au Canada.
Button ah ouais, au Canada. Non, mais elle est, enfin, elle est mythique cette course, enfin.
Oui.
Puis en plus, c'est un grand souvenir pour la rédaction de Fallait Fin. C'est un grand souvenir parce qu'on a fait un live de la course qui a un peu fini en a fini en extase. Sincèrement. On était là sur la fin de course. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
4 heures, voilà.
Oui, 4 heures.
D'ailleurs, on a appris que à partir de l'an prochain, la durée maximale globale d'une course ne pourra pas excéder 4 heures.
Donc on aura quand même le Canada, vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas de problème. Puisque le Canada, ça faisait 4 heures, donc grosso modo, c'est à peu près ça.
Button, la pluie, les interruptions de course, le déluge.
Il y en a eu des belles, alors c'est vrai que celle de Button, ce qui est, surtout ce qui est beau dans Button, c'est que je crois qu'il part 10e ou un truc dans le genre.
Il part bien, puis il chute, et puis
voilà,
après...
Il part bien, il rechute, il remonte, il rechute, il remonte, jusqu'à gagner la course finalement. Il a quand même, eu un épisode avec son coéquipier.
Oui.
Il a eu un épisode avec Fernando Alonso. Donc voilà, enfin c'est un ensemble de choses qui font que c'est juste merveilleux quoi ce qu'il a fait. Après, c'est vrai qu'il y en a eu des belles aussi, hein, celle de Weber, elle est... c'est une belle remontée, surtout parce qu'il termine sur le podium alors qu'il part 18e, je crois. Puis celle de Schumacher, elle est... celle de Schumacher, elle est...
C'est celle qui a fait renaître l'espoir. Hein.
Oui, bah oui. C'est bizarrement, après, il a fait des bons trucs, c'est vrai. Hein, parce après la Belgique, il y avait l'Italie.
Celles qui n'ont pas été nommées, tu prends par exemple... Toro Rosso, on a vu des Alguersuari et des Buemi faire de très belles remontées.
Voilà, c'est faut savoir que dans les remontées sur Stat F1, dans le palmarès des remontées, il y en a 4 cette saison. Il y a Schumacher dans les plus grandes remontées, il y a Weber, il y a Heidfeld en Espagne et il y a Buemi en Hongrie. Qui a cédé sa place à Button parce qu'il fallait 4 nominés, je pense. Donc voilà. Je trouve que c'est un petit peu aussi ce qui est dommage cette saison, c'est que on a eu l'impression que parfois être en fond de peloton, c'était pas forcément un handicap. D'ailleurs, on l'a vu en Q3 en voyant les pilotes qui jouaient la 10e place.
Oui.
Juste en restant dans le box pour pouvoir choisir les pneus et puis jouer la course comme ça, quoi. Donc ça, c'est ce qui est un peu dommage. Voilà, ça fait partie peut-être des trucs qu'il faudrait améliorer, même si c'est sympa une remontée. Mais on a quand même connu des époques où c'était beaucoup plus difficile, même si certains pilotes étaient très doués pour y arriver.
C'est vrai.
Je sais pas si on va voir un extrait sur ça, chez lui.
Bah, je pense surtout qu'il va falloir limiter, ne pas mettre toutes les missions du Canada.
Ça va être un peu le problème.
Le but est de mettre un extrait et pas...
Je crois qu'on a été très élogieux, donc je pense que... Très élogieux et très long sur cette course, donc...
Alors passons au vainqueur de la course, au vainqueur du classement du SAV.
Mais qui cela peut-il bien être ?
Il a marqué 954 points.
Non, Shinji, il a marqué l'histoire.
Ah oui, il a marqué.
On s'en fout des points.
Il a gagné à la fois le Grand Prix le plus long, le Grand Prix avec la moyenne la plus basse.
Oui. Le Grand Prix qui aurait pu être l'un des plus courts.
Qui aurait pu être un des plus courts. Je ne sais pas, après que... Ça fait déjà pas mal pour l'histoire, à moins que tu aies d'autres faits historiques. Non, c'est tout.
Non, mais moi, je dirais ce que j'ai dit hier sur le live. Button a sorti ce qu'on appelle littéralement un chef-d'œuvre, voilà, d'intelligence de course, de pilotage, même s'il y a des circonstances qui ont joué pour lui, voilà. Mais il a sorti un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre qui est à la mesure d'un Donington 93 avec Senna.
Donc, rappelons que Button, donc, à la sortie du 40e tour...
était 40e.
Non, mais il était 21e.
Oui, avec 20 et quelques secondes.
Voilà, mais quand même 21e.
Bon, il y a quand même eu une safety car entre les deux. Hein.
Ouais, mais il n'y en a eu qu'une, je veux dire. Tour, il y a déjà eu pas mal de safety car avant et tout. Il ne gagne pas de place sur la dernière safety car. Parce qu'à ce moment-là, il était 4e et voilà.
Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que on voit toutes les circonstances qu'il a eues dans sa course, on voit tous les voilà le drive-thru, on voit les deux crevés, enfin les ouais c'est ça, c'est oui, deux crevaisons avec Hamilton, voilà, les arrêts au stand, on voit toutes les merdes qu'il a eues, mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on voit tout ce qui l'a aidé aussi à remonter. Les safety cars, la stratégie des pneus, que effectivement, par exemple, que indirectement, quand il se fait taper par Hamilton, il crève, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il met les intermédiaires. Il va avoir les intermédiaires, 6 ou 7 tours de plus que les autres. Les autres vont vraiment attendre. Lui, pendant ce temps-là, il a le temps de bombarder, de remonter tout le peloton. Quand apparaît la pluie, il est remonté 8e. Il était 6e, il est redescendu 14e, il est remonté 8e. Donc, il a profité aussi profiter des événements de course.
Et qu'il a créé en plus. Il a créé sa propre course, en fait.
Voilà, c'est qu'on voit tout ça, on voit les circonstances atténuantes, etc. Et pourtant, moi qui ai souvent tendance à dire, quand même, faut regarder les circonstances, il a été aidé par-ci, par-là. Là, je le vois, je le dis, mais j'ai juste envie de dire, voilà, ce qu'il nous a fait, c'est un chef-d'œuvre.
Et il peut dire merci au DRS. Parce que quand même, sur le 69e tour, il est encore à une seconde, enfin, justement, un peu moins d'une seconde. Pas certain que sans le DRS, il la rattrape, cette seconde.
Oui, et puis ça joue forcément dans l'erreur que fait Vettel, ce qui pense bien sûr au DRS.
Parce que dans les 68e tour, il est à une seconde 1, une seconde 2, donc il est encore un peu loin. On sent qu'en fait, il a besoin du DRS pour vraiment recoller à Vettel, pour espérer ce qui va se passer. Il ne le fait quoi, au 69e tour, hein. Et là, il colle et il arrive ce qui se passe. Là, pour le coup, il peut dire merci.
Ça fait presque regretter en fait que Vettel ait fait son erreur, parce que s'ils étaient arrivés à moins d'une seconde au moment de la zone de déclenchement du DRS, on aurait pu avoir une fin à la Massa Kobayashi. Oui, tiens, d'ailleurs, ça fait penser qu'il, même s'il fait une erreur, il fait une erreur propre. Il fait pas un vieux tête à queue fait passer quatrième, tu sais. C'est quand même un beau rattrapage, hein, parce qu'il était quand même pas loin de la ligne.
Oui, finalement, il fait une petite erreur.
Pour revenir à Button, ça a été, il y a quelque chose qui a été souligné hier soir dans Dimanche F1, je crois que c'est par Lionel Froissart. La différence, c'est vrai que c'était un peu son grand prix, parce qu'il a eu quand même aussi un gros coup de bol. C'est que quand il double Weber, qui est totalement à la ramasse dans le début de la ligne droite, on passe en troisième position, il fait un écart monstrueux sur la partie humide avec des pneus slick, et il reste totalement droit, il ne part pas à la faute, comme est parti à la faute, par exemple, Massa, en doublant Kartikeyan. Et c'est vrai que là, ils disent, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance à ce moment-là. Ouais.
Mais il a eu des dépassements rock'n'roll, en plus, toute la...
Ah ouais, non.
Enfin, on a parlé d'Hamilton, on a parlé d'Alonso. D'ailleurs, heureusement, il a rien perdu sur tapis vert. Parce que il y a eu beaucoup d'explications d'ailleurs après la course sur plein d'événements, sous la pluie, plein de dépassements. Mais vrai aussi, ils l'ont souligné, il y a l'image de Button, ça l'aide un peu quand même.
Oui, mais est-ce que vraiment ils auraient retiré, même s'il avait été coupable, est-ce que vraiment ils auraient retiré la victoire à Button pour redonner une victoire à Vettel?
Oui, il y a ça aussi.
je suis pas sûr.
Certainement pas. Faut pas se leurrer, faut pas.
Ouais.
Non, parce que c'est vrai Button n'a pas un casier comme peuvent l'avoir.
Oui, c'est ça en plus, voilà.
Peut l'avoir Hamilton.
Ça l'aide, il a son image de gentleman driver qui fait que voilà, on pense pas forcément que c'est de sa faute de base.
Sur l'accrochage avec Hamilton, je suis moins j'ai des doutes quand même sur Button sur ce moment-là. Il a serré.
Hamilton peut le doubler, c'est vrai que c'est vrai que Button se resserre un peu. D'ailleurs, j'ai eu très peur. Ah non, on a très peur. On se dit que si.
Bah là, si la voiture se met en travers.
Non mais
ça part fort. Là.
Le truc c'est que à ce moment-là, comme il s'est loupé, qu'il est mal ressorti, il est plus vraiment sur la trajectoire idéale, qui est entre guillemets, même si les conditions sont très pluvieuses, qui est entre guillemets un peu plus sèche. Donc, il va pas tout de suite se remettre sur sa trajectoire. Il s'y met lentement. Mais c'est vrai que avec la pluie, avec la boue, c'est ce qu'il disait hier dans Dimanche F1, peut y avoir plein de trucs sur les rétroviseurs qui déjà traditionnellement sont pas forcément de bons outils pour regarder derrière. Quand il pleut, ça l'est encore moins. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est là où je donnerais un petit tort à Hamilton et où je prendrais plus Button. C'est qu'il faut comprendre dans ces conditions-là, c'est que c'est celui qui a la meilleure visibilité qui doit faire attention. Là, celui qui a la meilleure visibilité, c'est clairement Hamilton qui est derrière. Voilà, c'est dans la réaction, il a peut-être tout simplement pas pensé qu'il y avait son coéquipier derrière. Il a peut-être pensé. Enfin voilà.
Il a franchement pas la réputation d'être un gars qui
fout
les adversaires dans le mur. Hein, donc
c'est un doute. C'est pas une affirmation. Sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est pas habituel. C'est pas un pilote qui cherche le contact. Qui l'évite même plutôt. Qui est toujours des manœuvres de dépassement en général propres. Donc c'est pour ça. Bon, après.
Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que d'après vous, Button pourrait être le deuxième homme de cette saison? Parce qu'on a beaucoup parlé en début de saison peut-être d'Hamilton, et on voit quand même que depuis... Alors c'est vrai que cette course-là est particulière, mais Button vient quand même de faire 3 podiums de suite. Clairement, c'est vrai qu'au début de saison, on avait dit qu'il avait peut-être ses chances par rapport aux pneus Pirelli. Et d'ailleurs, au début, il a tenté des choses, ça n'a pas forcément marché. Mais justement, depuis 3-4 courses, il fait de très bonnes choses avec les pneus. Alors même si c'est vrai, cette semaine, c'était très particulier, est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être Button le plus grand rival de Vettel? Même si, bon, il a un gros retard de points, on est bien d'accord.
Non, Vas-y. Pour moi, le plus grand rival de Vettel, c'est Hamilton. Parce que je pense sincèrement que sur la course, si Hamilton ne se plante pas, que c'est lui qui gagne la course.
Oh!
Ah oui, non, mais je le pense, avec les réglages de la voiture, avec le choix des pneus, je pense honnêtement que Hamilton aurait pu gagner la course.
Ouais, je vais être assez d'accord avec toi, dans le sens où on voit bien que en ce moment Hamilton est quand même dans une mauvaise passe, et derrière c'est qui? C'est Button qui prend le dessus, dans un style tout à fait différent, et sans doute, même si on peut pas présager, mais je vais être comme Dino et je vais penser quand même que Hamilton aurait gagné cette course en étant encore plus agressif qu'un Button qui a quand même déjà lui aussi été assez agressif. Oui, je pense que Hamilton a le style, de toute façon, dans ces circonstances-là, quand les Red Bull n'ont pas forcément ne dominent pas trop, d'être le rival de Vettel. Je suis d'accord.
Mais il faut qu'il arrête sa mauvaise passe, ça, c'est clair.
C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça reste ça. Là, en ce moment, je vais te dire que c'est Button, de toute façon.
Ah oui, bien sûr.
Button,
oui.
Largement, quoi. Enfin, il y a rien à dire.
Le meilleur ennemi d'Hamilton, c'est Hamilton lui-même. C'est son grand défaut. Ouais. Le jour où Hamilton commence à tomber dans ses petits travers, ce qu'il a tendance à faire, voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'on a vraiment l'impression que la mauvaise passe d'Hamilton rend plus service à Vettel qu'autre chose, quoi.
Bah, clairement, oui, avec le niveau de Vettel cette année. Faut être à 100%, quoi.